Peut-être. Peut-être. Il est possible. Je ne vais pas multiplier les précautions oratoires de prudence. Mais peut-être que nous faisons fausse route dans l'Église sur l'écologie. Nous devons nous demander si l'Église n'est pas en train de se fourvoyer dans la défense de l'environnement, comme elle s'est fourvoyée il y a quelques décennies dans la lutte des classes, ou encore en matière de morale sexuelle, ne serait-ce que par l'exemple donné. Plus que fourvoyée, elle s'est dispersée, déjà dans une production incessante et déraisonnable d'enseignements et de documents magistériels en tout genre. J'en parle assez souvent avec mes confrères. Entre les exhortations, les encycliques, les notes diverses, il est quasiment impossible de suivre. Et si nous retrouvions déjà un peu de sobriété, vous savez, c'est un mot-clé en matière d'écologie, un peu de sobriété dans nos publications et dans nos paroles. Je disais dimanche dernier que nous ne savions pas grand-chose des hommes que Jésus avait appelés à sa suite. Si, il y a une chose que nous savons, que nous pouvons dire, c'était des taiseux. Au bord de l'eau, sur l'eau, on regarde, on écoute. Une sobriété heureuse, c'est déjà une sobriété silencieuse. Et sur l'écologie, je vous pose cette question ce dimanche que le pape a décrété dimanche de la parole de Dieu. Moins pour inciter les catholiques à lire la Bible, puisque nous la lisons à chaque messe, que pour s'assurer que le message de l'Église est conforme au message de l'Évangile. Et il n'est pas sûr qu'il le soit en matière d'écologie. Dans l'attention peut-être excessive accordée à la création au détriment de la rédemption, c'est-à-dire du salut. Presque rien dans l'Écriture, en tout cas rien de suffisant, ne dit que la création sera sauvée. Il y a un seul texte, au chapitre 8 de la lettre aux Romains, qui dit que la création gémit en travail d'enfantement, mais c'est dans un contexte très particulier, un chapitre consacré tout entier à l'Esprit Saint et à la prière. La parole que Jésus adresse à ses premiers disciples, « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes », s'adresse à des hommes en prise directe avec la nature et les en retire. Il ne les retire pas du monde. C'est ce que dit Jésus dans sa prière, dans sa dernière prière à son Père. « Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. » C'est-à-dire d'un attachement trop fort aux choses de ce monde. Et nous en avons la raison dans la deuxième lecture de ce dimanche. Il passe ce monde tel que nous le voyons. Comprenez bien et rassurez-vous, surtout si vous êtes, ce que j'espère, très sensible aux questions d'écologie et d'environnement. Il ne s'agit pas de remettre en cause un engagement indispensable et même vital de tous dans les causes citoyennes les plus importantes. L'appel à des comportements responsables en matière de respect de l'environnement, mais également de justice sociale, également de technique médicale. La question, c'est la mission de l'Église dans l'annonce de la parole de Dieu. Depuis l'Avent et jusqu'au baptême du Seigneur, nous étions avec Jean-Baptiste. J'ai lu dans l'homélie d'un confrère qu'il était, selon lui, le prototype de l'écolo. Jean-Baptiste tient des propos très clairs sur l'agir moral, en réponse aux foules qui déjà à l'époque étaient perdues. Que devons-nous faire? Ces réponses sont tout à fait mesurées, qui n'empêchent pas d'ailleurs de se faire des ennemis mortels des grands de ce monde, en disant au roi qu'il n'avait pas le droit de prendre la femme de son frère. Il n'avait pas peur de déplaire. Mais qu'est-ce qu'il annonce? Le jour du Seigneur, qui viendra comme un voleur, nous prendre tous nos biens matériels, tout ce à quoi nous sommes sensiblement, matériellement, charnellement attachés. La deuxième lecture du deuxième dimanche de l'Avent, de la deuxième lettre de Saint-Pierre, annonçait la disparition de l'univers. Quand, je cite, « les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, tout cela est en voie de dissolution. » Et la lettre de Saint-Pierre ajoute, « ce que nous attendons selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. » Voilà notre espérance. Nous ne savons pas grand-chose de cette terre nouvelle, ce ciel nouveau dont parle également le livre de l'Apocalypse. Mais il l'associe immédiatement à la justice. Où est la justice aujourd'hui en matière de respect de la création quand l'obsession de notre société, l'obsession législative, c'est d'allonger les délais et les conditions d'interruption de la vie naissante? Nous n'entendrons pas, dans la suite de l'évangile de Saint-Marc, à peu près à la mi-février, parce que le carême aura commencé, une des scènes les plus spectaculaires de l'évangile, qui est la guérison d'un paralytique qu'on descend devant Jésus en le faisant passer par le toit. Tout le monde s'attend à ce qu'il soit guéri. Or, le Christ ne donne pas la priorité à la santé du malade, de ce paralytique, mais au salut de son âme. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut rendre à chacun ses responsabilités terrestres, citoyennes, en matière d'écologie. Et à l'Église, sa mission de préparer le cœur de chacun, le cœur des hommes, à la rencontre du Seigneur. Le prophète Jonas, dans la première lecture, n'est pas envoyé pour faire la morale à un peuple corrompu, mais pour lui annoncer que leur ville va être détruite, et eux avec. Et ils comprennent bien, eux avec. Ils se convertissent. La deuxième lecture est encore plus claire, lorsque saint Paul prévient qu'il passe ce monde tel que nous le voyons. Seul l'amour ne disparaîtra pas. Et de l'Évangile, il faut retenir l'image de ces pêcheurs de poissons qui sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes. Ils comprennent d'expérience, ils savent très bien que les poissons qu'ils pêchent doivent mourir. Mourir pour pouvoir nourrir. Et eux aussi, à la suite du Christ, donneront leur vie. Car celui qui veut sauver la vie, sauver sa vie la perdra, celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Oui à l'Église verte, comme signe de l'espérance en la vie éternelle. Elle suppose ou elle passe par la couleur violette du pardon des péchés, de la réconciliation avec Dieu et avec nos frères. Il n'y a pas d'écologie possible sans une juste théologie. Convertissons-nous et croyons à l'Évangile.